Toute cette leçon que nous avons eue aujourd'hui pourrait être très frustrante pour certaines personnes. Cela change tout. Avant votre naissance, Christ était là et il ne va nulle part. On y croit vraiment. Le Seigneur a un dessein pour vous individuellement. Dieu et Jésus-Christ veulent nous donner la révélation. Il est toujours là avec chacun de nous. Nous lui appartenons. Et grâce à Jésus-Christ et à ce qu'il a fait du début à la fin, nous pouvons nous aussi nous reposer. Un jour, je parlais avec un de mes amis qui est pasteur, et il me disait que dans son église, la tradition qu'ils ont est qu'ils prennent un livre d'écriture, puis chaque dimanche, ils prêchent à travers ce livre d'écriture, en faisant un petit peu chaque dimanche. Ils prêcheront donc tout au long du livre des Actes ou prêcheront tout au long du livre de la Genèse. Et je lui ai demandé, « Combien de temps vous a-t-il fallu pour prêcher à travers le livre de la Genèse ?» Et il a répondu, « Plus de 3 ans. » J'ai dit, « Waouh, dans mon cours sur l'Ancien Testament, nous ne consacrerons que 8 vidéos à la Genèse. » Et il dit, « Seulement 8 heures ? Cela nous amènerait seulement à Genèse 4. » Le fait est donc qu'il y a beaucoup de choses à aborder dans un cours sur l'Ancien Testament. Comme nous l'avons déjà dit, il y a plus de pages dans l'Ancien Testament que tous les autres ouvrages standards réunis. Nous pourrions avoir un cours uniquement sur le livre de la Genèse. Et le problème que cela pose, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dont nous ne pourrons pas parler parce que je veux que chaque cours ait une durée raisonnable. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la structure du livre de la Genèse, nous n'allons pas vraiment nous concentrer là-dessus. Nous allons juste y plonger. Mais il existe d'excellentes ressources, comme le Bible Project qui propose une série de vidéos qui donne un aperçu de différents livres d'écriture. Je créerai un lien vers cela sur le site web du cours. Par exemple, dans le livre de la Genèse, les érudits ont vu qu'il y avait 2 sections. Les chapitres 1 à 11 de la Genèse parlent de la création, du déluge et de la tour de Babel, ouvrant ainsi la voie à la naissance de l'humanité. Et puis le reste du livre se concentre sur une seule famille, Abraham et Sarah et leurs descendants, alors qu'ils se rendent jusqu'en Égypte. Un autre sujet qui pourrait vraiment intéresser certaines personnes lorsque nous parlons des chapitres 1 et 2 de la Genèse pourrait être l'évolution. Et quel est le lien avec le créationnisme? Cela dépasse la portée de ce dont nous pouvons parler ici. Mais le département des sciences de la vie de BYU vient de publier un livre intitulé « L'Évangile restauré de Jésus-Christ et l'évolution ». Il est disponible gratuitement en ligne. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je créerai également un lien vers celui-ci sur le site web du cours. Mais pour nous aujourd'hui, nous allons commencer par le début. Au début. Ce sont les 3 premiers mots de quel livre d'écriture? Bien sûr, nous pensons au livre de la Genèse. Ce sont aussi les 3 premiers mots du livre de Jean. Dans Jean 1, nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Il en était de même au début avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Or, comme vous le savez, chaque récit de l'évangile commence à un endroit différent. Marc commence par le baptême de Jésus-Christ. Matthieu et Luc le soutiennent à la naissance de Jésus-Christ. Mais John veut nous ramener au début. Il veut que vous sachiez qu'avant votre naissance, Christ était là. Ce n'est pas comme si vous ou moi étions dans une relation à court terme avec Jésus-Christ. Il ne se contente pas d'entrer dans nos vies et d'en sortir. Il est avec nous depuis le début et il ne va nulle part. En fait, le Sauveur a dit, « Je suis Alpha et Oméga, le début et la fin. » Jésus-Christ n'était pas seulement au commencement, il est le commencement, et il sera avec nous du début à la fin et partout entre les deux. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 récits de la création. Dans la Genèse, Moïse et Abraham. Nous savons que la Genèse est le 1er livre de la Bible hébraïque. Moïse est la traduction par Joseph Smith des 1er chapitre de la Genèse. Vous pouvez voir dans le titre du chapitre que la traduction de Joseph Smith, ce que nous avons maintenant est le livre de Moïse, commence peu de temps après l'organisation de l'Église. C'est donc l'une des premières parties de la mission prophétique de Joseph Smith. Et puis environ 10 ans plus tard, il traduit le livre d'Abraham. Chacun de ces récits de création donne un récit similaire, mais il existe quelques différences uniques que nous allons explorer aujourd'hui. Et aussi, nous savons que la dotation du temple se concentre sur le récit de la création. Il est donc évident que la création est un récit important et que nous avons beaucoup à en tirer. Et finalement, ce que je pense que nous verrons aujourd'hui, c'est que la création est une histoire de joie. Dans le livre de Job, nous lisons le Seigneur disant « Quand j'ai posé les fondations de la terre, tous les êtres célestes ont crié de joie. » Et aujourd'hui, alors que nous parlons de trouver la joie à travers Jésus-Christ et sa création, nous parlerons de la joie dans la lumière, de la joie dans la création physique, de la joie dans la création spirituelle, de la joie dans la famille et de la joie à son image. Alors commençons par la joie dans la lumière. Au début, les choses n'étaient pas organisées. Nous lisons, lorsque Dieu commença à créer les cieux et la terre était un chaos complet et les ténèbres recouvraient la face de l'abîme. C'est un scénario de désorganisation totale. Mais remarquez comment Dieu commence à structurer les choses. Au cours des 3 premiers jours, nous voyons Dieu séparer la lumière des ténèbres, séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas, séparer la terre ferme de la mer, créer les plantes. Puis, du quatrième au sixième jour, Dieu remplit les espaces qu'il vient de créer. Dans la lumière viennent le soleil, la lune, les étoiles, remplissant la mer et le ciel des poissons et des oiseaux. Les animaux et les humains commencent à habiter la terre et à profiter des plantes. Nous voyons dès le début que Dieu est très ordonné dans ses processus créatifs. Il a une structure. Je pense que cela nous aide à nous en souvenir, car parfois nous sommes peut-être un peu frustrés lorsque nous essayons de créer des choses. Au moins, je le sais. J'adore cette idée de la présidente Emily Bell Freeman. Elle a dit, « Dans la belle imagerie de la création, au milieu de chaque étape, il y a une phrase souvent répétée. Dieu a vu que c'était bon. C'est dans ma nature d'attendre que le projet soit terminé, que le travail soit terminé, pour évaluer si mon travail est bon ou non. C'est toujours à la fin que je prends du recul pour évaluer le travail fini et en déterminer la valeur. Pas Dieu. Il a vu la bonté à chaque étape de la progression. De l'histoire de la création, nous avons appris que notre Père s'intéresse tout autant au progrès quotidien qu'au produit fini. Je pense que parfois nous oublions que c'est vrai. Nous devons nous rappeler que Dieu n'a jamais attendu les résultats du jour 6 le jour 2. Le jour 2, il a été ravi des résultats du jour 2. Il l'a déclaré bon. Dans nos propres vies, sommes-nous parfois au deuxième jour de la création, et nous regardons quelqu'un d'autre qui est au cinquième jour, et nous ressentons de la jalousie, du ressentiment ou de la douleur de ne pas être là où il est. Ne fais pas ça. Le président Freeman conclut en disant « Si Dieu murmurait du ciel ce soir pendant que vous vous endormez, savez-vous ce que je pense qu'il vous dirait? Tu es déjà bon. Quelle est perspicacité puissante. Nous n'avons pas besoin de comparer notre premier jour au cinquième jour de quelqu'un d'autre. Nous pouvons trouver de la joie dans le voyage de la création. Désormais, chaque voyage commence par une étape. Dans la création, la première étape a été que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Maintenant, je pense qu'il y a de nombreuses façons d'appliquer ce verset, mais lorsque je pense au récit de la création, j'essaie de penser à ma vie, à la vie que je crée pour moi-même, ou aux choses que j'essaie de créer, et de voir comment les principes de la création s'appliquent-ils à moi. Une façon que je vois d'appliquer ce principe de lumière et d'obscurité est dans ma propre vie, il y a beaucoup de choses qui se passent, et je dois séparer la lumière, ou ce qui est essentiel, ce qui est le plus important, de l'obscurité, les choses qui comptent moins. J'ai récemment été inspiré par une histoire apocryphe. Cela ressemble à ceci. Warren Buffett a un jour donné à son pilote, Mike Flint, des conseils inhabituels sur l'établissement des priorités. Il lui a dit de dresser une liste de ses 25 meilleurs objectifs, puis lui a fait encercler les 5 plus importants. Alors maintenant, Flint avait deux listes, les 5 qui comptaient le plus et les 20 qui n'étaient pas retenus. Au début, Flint pensait qu'il devrait se concentrer sur les 5 premiers, puis travailler sur les autres lorsqu'il en aurait le temps. Mais Buffett l'a arrêté et a dit « Non, non, non. Ces 20 autres ne sont pas à la deuxième place. C'est votre liste à éviter à tout prix. » Au début, j'étais perplexe, mais j'ai ensuite réalisé que c'était logique. Parce que si quelque chose est le point 6, 7 ou 8 de votre liste, c'est quelque chose de vraiment bon, quelque chose qui va probablement vous éloigner de ce qui compte vraiment le plus. Parfois, lorsque nous séparons la lumière des ténèbres, cela peut être difficile. Je veux dire, si je regarde 5 heures de Netflix par jour, d'accord, c'est une séparation facile à faire. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, le défi ne consiste pas seulement à séparer la lumière de l'obscurité, mais aussi à séparer la vraie lumière de la presque lumière. Parfois, le meilleur est le plus grand ennemi du meilleur. Maintenant, je sais que c'est un défi. Certains d'entre nous se disent probablement « Écoutez, frère Hilton, mon bureau est en désordre. Je ne sais même pas par où commencer. » Mais je pense que nous pouvons trouver la sagesse et la perspicacité dans le livre d'Abraham. Vous remarquez probablement ce schéma maintes et maintes fois dans le livre d'Abraham sur l'organisation des dieux. S'organiser est un acte divin. Il existe de nombreux excellents livres d'auto-assistance qui peuvent nous aider à comprendre comment organiser les choses et comment séparer la lumière de l'obscurité. Je pense qu'il est important que nous prenions le temps de réfléchir dans nos vies. Que signifie séparer la lumière des ténèbres? Peut-être au début d'une nouvelle année ou d'un nouveau semestre, ou alors que nous nous lançons dans un processus de création, lire un livre comme celui-ci, que j'adore d'ailleurs, et réfléchir à la manière dont ils peuvent m'aider à m'organiser est vraiment utile. Je tiens également à souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'un principe de productivité, c'est un principe spirituel. Vous souvenez-vous d'un dîner? Deux sœurs ont invité Jésus à dîner. L'une d'elles, Martha, était très stressée. Elle préparait beaucoup de plats dans la cuisine et s'assurait que tous les jouets étaient ramassés dans le salon, en s'assurant que le siège était baissé dans la salle de bain. Puis elle a regardé et elle a vu sa sœur Marie ne faisant rien. Rien. Elle était juste assise aux pieds de Jésus. Marthe s'est approchée du Sauveur et lui a dit « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur m'ait laissé faire tout le travail par moi-même? Dis-lui de venir m'aider. » Maintenant, ne pensez-vous pas que Marthe pensait que Jésus prendrait son parti? Parce que sinon, Pourquoi dirait-elle quoi que ce soit? Je pense que Marthe pensait que le sauveur dirait quelque chose comme « Marie, voici, si ta sœur te demande de travailler avec elle une heure dans la cuisine, travaille avec ses deux. » Ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, Jésus dit « Marthe, Marthe, tu es inquiète et distraite par beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » La seule chose, c'est ce que faisait Marie, assise aux pieds de Jésus et écoutant. En fin de compte, séparer la lumière de l'obscurité ne consiste pas seulement à nettoyer les placards ou à clarifier les objectifs. Il s'agit de laisser Jésus-Christ lui-même être la lumière. Lorsque nous séparons la lumière des ténèbres, rappelez-vous que le Sauveur a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Par son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ a pris le chaos du péché et de la mort ainsi que les mers tumultueuses de nos vies et les a transformées en une nouvelle création en Christ. En fin de compte, ce ne sont pas les cinq principaux objectifs qui sont les plus importants, car il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Maintenant, je voudrais m'arrêter un instant et parler d'un cadre qui a été expliqué par David Abednar dans son livre « Augmenter l'apprentissage ». Il parle de la façon dont il existe des doctrines. Une doctrine est une vérité de salut que Dieu révèle à l'homme. C'est une vérité globale. Il existe relativement peu de doctrines, comme l'expiation de Jésus-Christ, ou peut-être le rassemblement d'Israël. Les principes naissent des doctrines. Les principes sont des lignes directrices fondées sur la doctrine pour l'exercice du libre arbitre. Quelque chose qui est conçu pour nous aider à prendre des décisions, mais ce n'est pas un comportement spécifique. C'est ce qu'est une application. L'application concernerait les comportements réels, les étapes d'action ou les pratiques, et ceci découle de principes. Souvent, les candidatures sont personnelles. L'application qui fonctionne pour moi n'est peut-être pas celle qui fonctionne pour vous. Prenons ce cadre et réfléchissons-y en fonction de ce dont nous avons discuté. Peut-être avons-nous une doctrine. Sous la direction de Dieu, Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. Un principe issu de cette doctrine pourrait être un élément clé de la création. Séparer la lumière des ténèbres. Maintenant, prenez juste un moment et réfléchissez à vous-même. Quelle pourrait être une application dans votre vie qui pourrait découler de ce principe? La fréquentation du temple est vraiment cruciale pour moi. J'ai plus de temps dans ma vie en ce moment, donc je peux y aller une fois par semaine. Mais prendre ces rendez-vous, puis m'y tenir et ensuite avoir une écoute intentionnelle pendant que je suis là pour recevoir une révélation ou une compréhension, toutes ces choses sont séparées. Quand je pars, du coup je vois plus clairement la séparation entre la lumière et l'obscurité. Cela me semble plus évident. Merci. J'ai donc pensé que je passais beaucoup de temps à conduire une voiture, et parfois j'aime vraiment mettre ma musique amusante que je peux écouter et chanter. Et d'autres fois, je me dis « D'accord, je perds vraiment mon temps ici. Je suis assis, je suis confiné. Je devrais écouter quelque chose qui apportera plus de lumière et invitera davantage l'esprit dans ma vie. C'est juste un exemple simple d'une meilleure utilisation de mon temps. C'est une question difficile, car évidemment, parfois, c'est bien d'écouter de la musique amusante, n'est-ce pas? Comment discernez-vous dans votre propre vie quand vous vous dites « D'accord, je peux faire une pause dans la musique amusante et composer un peu plus de lumière. Cela a en partie à voir avec où je vais, ce que je fais. Parfois, je suis sur le point de récupérer mon fils à l'école et je veux avoir le bon état d'esprit quant à la façon dont s'est passée votre journée et aborder ce qui compte pour lui. Je pense que parfois, écouter une conférence m'aide à me concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Je ne sais pas. C'est une question vraiment difficile. Parfois, je dois juste écouter de la musique, baisser les fenêtres et chanter à haute voix. C'est un principe difficile. Eh bien, prenons un moment et parlons de la joie dans la création physique. À votre avis, qu'ont ressenti notre Père Céleste et Jésus-Christ lorsqu'ils ont créé le monde? Quand je lisais des phrases comme ça, Dieu voyait que c'était bien. Dieu les a bénis. C'était très bien. Dans mon esprit, j'imagine notre Père Céleste et Jésus-Christ souriant, éprouvant simplement de la joie dans la création. Il semble que ce soit également ce que suggère le président Uchtdorf. Il a dit « Créer contribue au bonheur parfait de notre Père Céleste. Vous n'avez pas besoin d'argent, de position ou d'influence pour créer quelque chose de substantiel ou de beauté. La création apporte une profonde satisfaction et un épanouissement. Nous nous développons nous-mêmes et les autres lorsque nous prenons entre nos mains de la matière non organisée et la façonnons en quelque chose de beau. Notre droit de naissance est de rechercher et d'expérimenter le bonheur éternel. L'une des façons d'y parvenir est de créer des choses. Ce que vous créez ne doit pas nécessairement être parfait. Ne laissez pas la voix des critiques vous paralyser, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Encore une fois, je pense que cela est utile pour voir à quel point ce modèle est vraiment flexible. Si nous avons la même doctrine sous la direction de Dieu, Jésus-Christ a créé la terre, un principe qui en découlerait pourrait être que notre Père Céleste en Jésus-Christ trouve de la joie dans la création. Il existe ensuite de nombreuses applications possibles. Peut-être que je veux créer plus ou d'une manière différente. Récemment, j'ai repris la guitare. Je n'en suis même pas au premier jour dans mes capacités à jouer de la guitare. J'en suis encore au jour zéro. Mais c'est amusant pour moi de m'asseoir et de créer un peu de musique. Alors peut-être qu'une application pourrait être. Je trouverai de la joie en créant de la musique ou en créant de la poésie ou des œuvres d'art. Mais la beauté de ce framework est que vous pourriez avoir une application totalement différente. Par exemple, je pourrais dire qu'il y a tellement de beauté dans la nature. Ma candidature est la suivante. Je trouverai de la joie en passant du temps à profiter des créations de Dieu. Alors prenez un moment et réfléchissez à ce qui pourrait être pour vous une application du principe Notre Père Céleste et Jésus-Christ trouve la joie dans la création. Maintenant, nous pourrions en parler un peu plus, mais je veux d'abord changer de sujet et avoir une petite discussion sur la joie dans la création spirituelle. Ces idées que je vais partager, et je partagerai quelques applications spécifiques, sont basées sur Moïse 3, 5 à 7, où nous lisons « Moi, le Seigneur Dieu, j'ai créé toutes choses spirituellement avant qu'elles ne soient naturellement sur la surface de la terre. Toutes choses ont été créées auparavant, mais spirituellement elles ont été créées et faites selon ma parole. Maintenant, si vous y réfléchissez, il est intuitivement logique qu'il y ait deux créations. Avant la création physique d'un bâtiment, il y a la création spirituelle des plans. Avant de créer physiquement une robe, il y a la création spirituelle d'un motif. Avant de pouvoir physiquement créer un repas, nous devons créer spirituellement une recette. Comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Jérémie, « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour votre bien-être et non pour votre mal, pour vous donner un avenir plein d'espérance. » Si nous réfléchissons à cela dans nos propres vies, Dieu peut nous aider à créer spirituellement, à exploiter ces plans dont nous parlons, pour nous aider à devenir le genre de personne qu'il aimerait que nous soyons. Alors au risque d'être trop personnel, je souhaite partager une petite histoire avec vous. J'étais récemment rentrée chez moi pour ma mission. C'est moi. Voici mon pote Ethan. Mon ami Ethan m'a invité un jour à le rejoindre pour une réunion du club de leadership. Je ne faisais pas partie du club de leadership, mais je voulais passer du temps avec Ethan. Je suis allée au club et j'ai immédiatement été frappée d'amour pour le leader. Elle était étudiante. Elle était absolument magnifique. Elle rayonnait l'esprit. J'ai ressenti une connexion entre moi et elle. Je ne pense pas qu'elle ait ressenti quoi que ce soit, mais j'ai finalement réussi à obtenir son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, je lui ai demandé de sortir avec moi et nous avons eu un premier rendez-vous très magique. Nous avons parlé de toutes ces choses que nous avions en commun. Nous avions tous les deux des agendas Franklin Covey, dont vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas à quel point ils sont cool. Alors que je rentrais chez moi après le rendez-vous, j'écoutais une mixtape. Je ne sais pas si vous étiez dans les années 90, vous savez ce qu'est une mixtape. Et une chanson de U2 est arrivée. La chanson était « Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche ». Et je me suis dit que cette chanson n'est pas vraie. J'ai totalement trouvé la personne que je recherche. Mais quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai commencé à ressentir un sentiment de malaise. J'ai réalisé qu'il y avait un gros déséquilibre entre moi et cette dame. Elle faisait toutes ces grandes choses dans sa vie. Elle avait un travail. Elle faisait partie du club des dirigeants. Elle a fait du bénévolat dans la communauté. J'ai regardé beaucoup la télévision. Il y a donc un grand écart. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai lu les Écritures. J'ai prié, pour faire court, ce que j'ai ressenti dans mon cœur, c'est que le Seigneur me disait, « John, tu n'es pas assez bien pour elle. Vous devez devenir une meilleure personne. » Les idées derrière cette citation de Richard G. Scott sont vraiment profondément ancrées dans mon cœur. Frère Scott a dit, « Vous avez besoin d'une retraite de paix et de tranquillité, où vous pouvez périodiquement méditer et laisser le Seigneur établir la direction de votre vie. Il peut sembler difficile de trouver le temps de méditer avec les pressions quotidiennes de la vie. Pourtant, un moment de réflexion confirmera que peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, si vous êtes sur le mauvais chemin, cela ne vous servira à rien. Il est clair que Dieu et Jésus-Christ veulent nous donner la révélation. En fait, le président Nelson a récemment enseigné qu'ils voudront peut-être nous donner plus de révélations que nous sommes même disposés à recevoir. Le président Nelson a dit, « Il y a bien d'autres choses que votre Père Céleste veut que vous sachiez. Je saigne avec vous pour augmenter votre capacité spirituelle à recevoir la révélation. » Choisissez de faire le travail spirituel requis pour jouir du don du Saint-Esprit et entendre la voix de l'Esprit plus fréquemment et plus clairement. Avec l'idée de frère Scott de partir en retraite, je ne suis pas allée au Mexique ou à Miami. Je viens de rentrer chez moi pour les vacances de Noël, mais j'ai passé du temps au temple. J'ai passé du temps à lire mes écritures, à étudier ma bénédiction patriarcale. Et au fil du temps, j'ai commencé à ressentir une création spirituelle du type de personne que je pourrais devenir dans le futur. Richard G. Scott a dit, le Seigneur a un dessein pour vous individuellement. Découvrez-le et accomplissez-le. Il ne sera probablement pas révélé d'un seul coup, mais sera dévoilé ligne après ligne. En priant et en travaillant dur, vous découvrirez des pistes de compréhension qui vous mèneront au chemin que le Seigneur veut que vous suiviez. Suivez fidèlement et courageusement ces fils de compréhension et d'orientation. Encore une fois, je partage cela de manière très personnelle. Je ne dis pas que c'est l'application que tout le monde doit faire, mais j'ai esquissé une vision de ce que je voulais faire et devenir au cours des 4 prochains mois, en essayant d'exploiter la vision que Dieu avait pour moi. Il y avait certaines choses comme avoir une salle blanche. Il faut bien commencer quelque part. Je dois nettoyer ta chambre. Il faut s'organiser. Il y avait d'autres choses. L'un d'eux était de lancer un projet de service communautaire. L'idée qui m'est venue à l'esprit était que je pourrais contribuer à la création d'un programme dans mon université où un étudiant et une étudiante feraient équipe pour encadrer un lycéen à risque. Cela ne semble probablement pas très grave, mais pour moi, cela semblait être un énorme défi. Je n'avais jamais rien fait d'important avec le gouvernement étudiant. Mais une fois que j'ai eu la création spirituelle, j'ai pu aller frapper à la porte du bureau du gouvernement étudiant et créer ce programme de service communautaire. Encore une fois, pour faire court, finalement, cette fille dont j'étais tombé amoureux, elle est devenue ma partenaire dans le programme de service, et nous avons fini par nous marier. Jeffrey et Roland a enseigné. Je crois qu'à notre manière individuelle, Dieu nous emmène au bosquet, à la montagne ou au temple, et là nous montre la merveille de son plan. Pour nous. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule trajectoire que vous pouvez suivre dans votre vie, que vous êtes un robot et que vous devez simplement faire tout ce que Dieu dit. Je crois que notre Père Céleste et Jésus-Christ sont disposés à être co-créateurs avec nous. C'est juste que souvent nous n'exploitons pas la perspicacité, la révélation, la vision qu'ils veulent partager avec nous. J'ai partagé une application très spécifique du principe selon lequel Jésus-Christ a créé les choses spirituellement avant qu'elles ne soient créées physiquement. Une application pourrait donc consister à passer du temps à exploiter la vision de ce que Dieu vous réserve. Mais il existe également d'autres applications. Alors peut-être, arrêtons-nous ici un instant. J'aimerais entendre certaines de vos expériences, votre histoire. Comment avez-vous vu le principe de la création spirituelle à l'œuvre dans votre vie? Prendre juste le temps de rester tranquille et d'écouter les résultats. Merci. Notre Père Céleste veut que je travaille davantage à créer qu'à consommer. Dans quel domaine de ma vie puis-je avoir une voix plus proactive? Et dans quel domaine puis-je faire écho à mon Père Céleste en créant, en étant un pourvoyeur et en étant plus actif? Et dans quel domaine de ma vie puis-je montrer plus de gratitude dans ma consommation et dans mon apport? Et cela m'a été très utile de voir davantage la main de Dieu dans ma vie quotidienne et de voir d'où je viens vraiment et où je veux être. Merci. Vous pensez peut-être, waouh, c'est génial. J'aimerais juste avoir plus de ressources pour m'aider dans le processus de création spirituelle. Voyou Exorce. De nombreuses ressources à ce sujet sont liées gratuitement sur le site web du cours. Mais pour l'instant, je veux passer à la joie en famille. Vous vous souvenez que dans le processus de création, Dieu dit encore et encore, c'était bien, c'était bien, c'était bien, jusqu'à ce qu'il dise, ce n'était pas bien. Ce qui n'était pas bien, c'était que l'homme soit seul. Le Seigneur Dieu a dit, je lui ferai une aide à la hauteur. Alors d'abord, faisons une pause. Quelle est cette expression, help meet? J'ai remarqué ces dernières années, vous avez peut-être remarqué aussi, que ce n'est pas seulement que la femme est censée être l'aide de l'homme est également censé être l'aide de la femme. Quelle que soit la signification de ce mot, c'est une voie à double sens. Alors, qu'est-ce qu'une rencontre d'aide? Cela ressemble presque à un assistant junior, peut-être à une connotation négative, mais ce n'est pas le cas. Comme l'a écrit Angela Ashurst McGee. L'expression traduite par helpmeet vient de deux mots hébreux, ézer et kenegdo. Ézer signifie aide, mais d'une manière distincte. En anglais, un assistant est parfois considéré comme une personne occupant une position inférieure. Mais ézer décrit la force. Cela suggère que l'individu a le pouvoir de sauver les autres. Ézer est utilisé 21 fois dans l'Ancien Testament, décrivant toujours une personne ayant la capacité lui permettant d'aider, de protéger ou d'aider. Dans la plupart de ces cas, Ézer décrit la manière dont Dieu offre son aide à l'humanité. Ou, comme l'a écrit un bibliste, lorsque Dieu créera Ève à partir d'une côte d'Adam, son intention est qu'elle soit, contrairement aux animaux, une puissance ou une force égale à lui. C'est ce que signifie Ézer Kenegdo. Ainsi, alors que notre Père Céleste crée Adam et Ève, nous lisons, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair, seront féconds, se multiplieront et rempliront la terre. Cela fait partie du plan éternel de Dieu. Le mariage entre un homme et une femme est ordonné par Dieu. Nous sommes censés nous multiplier et reconstituer la terre. Maintenant, je sais que c'est un sujet vraiment sensible. Il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient se marier mais ne le sont pas. Il y a des gens qui vivent un mariage épouvantable et qui souhaiteraient ne pas l'être. Il y a des gens qui veulent avoir des enfants mais qui n'y parviennent pas. Même si c'est un sujet sensible, je pense qu'il est important d'en discuter puisque depuis le début, le mariage entre un homme et une femme a été ordonné par Dieu. Comme l'a enseigné le président Russell M. Nelson. Ces dernières années, de nombreux pays, dont les États-Unis, ont légalisé le mariage homosexuel. En tant que membre de l'Église, nous respectons les lois du pays et les respectons, y compris le mariage civil. La vérité, Cependant, et qu'au début, c'est ce que souligne le président Nelson, le mariage a été ordonné par Dieu, et jusqu'à ce jour, il est défini par lui comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Dieu n'a pas changé sa définition du mariage. Saviez-vous que ce verset dont nous parlons a en réalité fait l'objet d'un débat intense entre Jésus-Christ et certains pharisiens ? Un jour, des pharisiens sont venus vers Jésus disant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit ?» Remarquez que la question a à voir avec « Est-ce que vous pouvez, pour quelque raison que ce soit, vouloir, pour une raison insignifiante, divorcer de votre femme ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu dans Genèse 2, où le Seigneur dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair ?» Ce que Dieu a donc uni, que l'homme ne le sépare pas. Mais les pharisiens ont fait leur retour. Ils dirent « Eh bien, pourquoi alors Moïse a-t-il ordonné de donner un écrit de divorce pour la répudier ?» Cela fait référence à un passage du livre du Deutéronome, où il y a une allocation pour le divorce. Le Sauveur répondit et dit « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais depuis le début, il n'en a pas été ainsi. Et je vous le dis, quiconque répudiera sa femme, sauf pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épouse celle qui est répudiée, commet un adultère. » Encore une fois, je sais que c'est un sujet très sensible. J'en parle parce que c'est l'un des enseignements les plus coherents de Jésus Christ. Deux fois dans le livre de Matthieu, une fois dans Marc, une fois dans Luc et même dans trois Néphis, Jésus enseigne le divorce. En fait, l'apôtre Paul dans les Corinthiens explique comment le Sauveur nous a enseigné que nous ne devrions pas divorcer. Je ne dis pas qu'une personne devrait rester dans un mariage abusif. Le contexte ici est celui d'hommes qui voulaient divorcer de leur femme pour des raisons insignifiantes. Jésus dit, ne fais pas ça. Par exemple, aujourd'hui, un homme pourrait dire, ma femme ne m'attire plus autant qu'avant, ou elle a des habitudes ennuyeuses. Jésus dit, ce n'est pas une raison valable pour divorcer. Les normes du Christ en matière de divorce sont en réalité très élevées. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous vivons selon des normes différentes. Comme Dallin Ajoux l'a expliqué, dans les temples du Seigneur, les couples sont mariés pour l'éternité. Mais certains mariages ne progressent pas vers cet idéal. En raison de la dureté de notre cœur, le Seigneur n'impose pas actuellement les conséquences de la norme céleste. Il permet aux personnes divorcées de se remarier sans la tâche d'immoralité spécifiée dans la loi supérieure. Comme pour tout ce que nous avons et dont nous parlerons, le mariage est directement lié à l'expiation de Jésus-Christ. Pensez à une salle de scellage. Au centre d'une salle de scellement se trouve un autel qui représente depuis des millénaires la mort de Jésus-Christ. Bruce C. Affen a parlé d'une expérience qu'il a eue où il a invité dans une salle de scellement un homme et une femme à venir à l'autel et à se donner la main au-dessus de l'autel. Ainsi, que vous pensiez à l'autel ou aux mains jointes sur l'autel, la crucifixion de Jésus-Christ est littéralement au centre d'une alliance de scellement. Cela peut changer notre façon de voir le mariage éternel. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a écrit. Marie, aimez vos femmes, tout comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Paul pensait que Jésus n'était pas simplement tombé amoureux de nous et nous avait quittés. Il a sacrifié sa vie pour nous. Et c'est ce que les maris devraient faire pour leurs femmes. J'aime ce qu'écrivent les auteurs chrétiens Timothy et Cathy Keller. Sur la croix, Jésus ne nous a pas méprisés avec un cœur plein d'admiration et d'affection. Il n'a ressenti aucune alchimie, mais il s'est donné. Il a fait passer nos besoins avant les siens. Il s'est sacrifié pour nous. La Bible dit aux époux non seulement d'imiter la qualité et la manière de l'amour du Christ, mais aussi le but de celui-ci. Jésus n'est pas mort parce que nous étions beaux, mais pour nous rendre beaux. Il est mort, dit Paul, pour nous sanctifier. Nous sommes tous dans des situations très différentes. Alors prenez un moment pour réfléchir au principe. Le mariage entre hommes et femmes est essentiel au plan éternel de Dieu. Encore une fois, je reconnais que toutes les familles ne sont pas parfaites. En fait, toute cette leçon que nous avons eue aujourd'hui pourrait être très frustrante pour certaines personnes. Peut-être que votre situation familiale n'est pas celle que vous souhaiteriez. Peut-être avez-vous du mal à puiser dans la création spirituelle que vous savez que Dieu vous réserve. Ou peut-être que vous essayez de réaliser des créations physiques, mais elles ne fonctionnent tout simplement pas. Mais si vous êtes frustré dans la vie, si vous comprenez vraiment ce dernier principe, la joie à son image, tout le reste peut se mettre en place. L'un des versets les plus célèbres du livre de la Genèse est celui où Dieu dit « Faisons les humains à notre image selon notre ressemblance. » Donc Dieu a créé les humains à son image, à l'image de Dieu, il les a créés. Mâle et femelle, il les a créés. C'est un de ces versets que nous avons tous en tête, mais le ressentons-nous vraiment dans notre cœur? Parce que si c'est au plus profond de nos cœurs, c'est comme si, quoi qu'il arrive, de quoi dois-je m'inquiéter? C'est comme ce dont nous avons parlé la dernière fois dans Moïse 1. Si je sais que je suis un enfant de Dieu, si je sais que je suis créé à son image, cela change tout. Mais pour une raison quelconque, il est facile de le savoir ici et difficile de le ressentir ici. Comme l'a dit un prédicateur, le voyage le plus long va de la tête au cœur. Il y a l'histoire d'une jeune fille. Elle a grandi dans la campagne du Mississippi. Sa grand-mère était une servante, sa mère était une servante et sa mère avant elle était esclave. Un jour, sa grand-mère lui a dit « J'espère que tu auras de bons blancs comme moi un jour ». Mais cette jeune fille savait qu'elle avait été créée à l'image de Dieu. Elle avait l'impression que Dieu avait un plan différent pour elle que celui d'être une servante toute sa vie. Cette petite fille était Oprah Winfrey. Quand elle a grandi, elle a dit « Les voix du monde m'ont dit que j'étais pauvre, de couleur et une femme, mais Dieu a eu une autre vision pour moi ». Lorsque nous pouvons puiser dans cette vision et savoir réellement dans notre cœur que nous sommes créés à l'image de Dieu, cela change tout. On y croit vraiment? Et si oui, comment allons-nous l'appliquer? Alors que nous arrivons à la fin de la création, nous lisons « Ainsi les cieux et la terre furent achevés et Dieu se reposa ». Pensez à ces deux mots, « fini » et « reposé ». Sur la croix, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Grâce à Jésus-Christ et à ce qu'il a fait du début à la fin, nous pouvons nous aussi être rassurés en sachant qu'il est toujours là avec chacun de nous et que nous lui appartenons. Je témoigne que grâce à Jésus-Christ, nous pouvons trouver de la joie dans chaque partie de la création.